Merci infiniment, Daniel. Alors on pourrait rêver parodier cette rencontre et en faire une autre où on se pencherait sur toutes les chroniques de l'architecture dans les régions de France. Mais je crois qu'on comprend bien à t'entendre que le cas breton est tout à fait exceptionnel. On voit aussi combien la poussée régionaliste était ancienne et combien finalement elle a été modérée. Et je voudrais pendant la période de Vichy elle-même. Je crois que, encore une fois, le cliché qui veut que Vichy assure de manière unilatérale la promotion du régionaliste doit être révisé. On voit au contraire que des forces puissantes et contraires sont à l'œuvre. Isabelle Bacouche va nous rapprocher de ces lieux et parler de Paris et aussi réintroduire ce qu'on a un peu perdu de vue, c'est-à-dire le tissu social, le tissu urbain les populations sur lesquelles portaient ces politiques urbaines.
L'îlot 16 est un terrain propice à l'observation des architectes et une récente enquête m'a permis un gros plan sur la période de Vichy. La profession n'a alors aucune homogénéité et la création de l'ordre en décembre 40 vise précisément à discipliner l'usage du titre. L'enquête sur les architectes a l'avantage de tisser des liens entre l'amont et l'aval de Vichy, c'est un aspect qu'on a déjà vu, et donc de faire valoir des continuités. Continuité qui échappe souvent en raison du compartimentage politique des études historiennes. Mon enquête portait sur l'îlot insalubre parisien numéro 16, au sud du quartier du Marais, entre la rue du François-Miron et la Seine. Ayant la double réputation d'être insalubre et d'être un ghetto, il est une arène qui voit s'opposer diverses solutions à appliquer à un quartier archéologique, mais il est aussi un véritable laboratoire pour certains architectes qui s'en emparent intellectuellement et opérationnellement à partir de 40. L'investissement intellectuel passe notamment par la création d'une revue, l'Architecture française, qui réunit un groupe d'architectes à la fin de l'année 1940, qui souhaite prendre date en prévision de la reconstruction et défendre un point de vue sur la manière d'intervenir en tissu urbain ancien. Enfin, l'engagement est opérationnel et massif, puisque sous la maîtrise des trois architectes coordonnateurs, nommés en février 1942, 44 architectes d'opération seront à l'œuvre, parmi lesquels des grands noms de l'architecture française du second XXe siècle. J'ai tenté d'élaborer une histoire sociale des architectes en prise avec un terrain particulier, démarche facilitée par le fait qu'ils sont très présents dans les dossiers d'archives et qu'ils entretiennent des relations privilégiées avec les pouvoirs, notamment la préfecture de la Seine. Et certains ont laissé de copieuses archives, notamment Albert Laprade. Les architectes seront donc envisagés ici comme de véritables acteurs du changement urbain, permettant une étude localisée d'une profession mise en contexte. L'îlot 16 comme terrain d'expérimentation, alors que les îlots insalubres sont en attente d'une intervention depuis 1920, plusieurs propositions d'architectes convergent sur l'îlot 16 à la fin des années 30. Il sert d'exutoire au face-à-face entre modernistes et protecteurs, dans un contexte d'impécuniosité qui fait que toutes les solutions sont en attente. André Hilt et Henri Baudécher publient en 1940, dans l'architecture française, un projet pour l'îlot 16 assez radical. Les voies et le bâti sont entièrement refondus, seuls subsistent les deux églises et la façade de l'hôtel de Beauvais. Il prévoit aussi d'installer une annexe de l'hôtel de ville dans les nouvelles constructions, un projet qui tenait à cœur de la préfecture de la Seine depuis 1938. Elle voyait en effet dans l'îlot 16 une véritable opportunité foncière pour agrandir ses locaux. Les architectes redessinent donc totalement le quartier, construisant un centre social sur le quai de l'hôtel de ville et de vastes halls vitrés pour le commerce. Dès 1937, à l'occasion de l'exposition des arts décoratifs, Le Corbusier choisit l'îlot insalubre numéro 6, localisé de part et d'autre de la rue du Faubourg-Saint-Antoine, pour faire la preuve de la viabilité de ses idées. Dans les limites de la ville haussmannienne, il prévoit 5 autostrades de traversée, 4 gares d'autocars de province, 2 tunnels d'autostrades sous la cité et sous les Champs-Élysées, des centres de réjouissance populaires, je cite évidemment, et une nouvelle cité universitaire en périphérie. Et ultime spécialisation de l'espace, ici c'est le numéro 3 de la légende, il localise une cité administrative à la place de l'îlot 16, c'est-à-dire qu'il reprend l'idée de Hilt et Baudéchère. Il s'inquiète, Le Corbusier, en 41, dans Destin de Paris, de l'orientation prise dans l'îlot 16. N'est-il alors pas angoissant d'apprendre qu'on songe précisément à entreprendre la reconstruction de l'îlot insalubre situé derrière l'hôtel de ville, ainsi que l'a annoncé la radio de Vichy? Et il conclut, là où, selon toutes les adjurations du plan, doivent être réservées les grandes zones nobles par excellence de l'administration, municipes, syndicats, affaires. Lui aussi considère que l'îlot 16 doit être réservé aux activités nobles, souhaitant saisir cette occasion pour, je cite, se débarrasser des foules inertes, de ceux qui n'ont véritablement rien à faire à Paris et dont la place est à la terre ou à des industries à transplanter. La réponse à Le Corbusier ne tarde pas et elle émane de collectifs dans lesquels les architectes jouent un rôle important. J'en donnerai deux exemples. Une pétition est adressée au maréchal Pétain à la fin de l'année 1941. Parmi la centaine de signataires qui sont donc classés de cette manière sur le document original, des architectes, Perret, Tournon, Gromort, Le Coeur, Desmarais, Cognam, Laprade, de Babosson, Saint, Bardet. Ils s'inscrivent, c'est pas moi qui les étiquette ainsi, ils sont étiquetés ainsi dans le document. Ils s'inscrivent dans une nébuleuse de sommités scientifiques et littéraires, comme vous pouvez le voir. On trouve même l'historien Lucien Febvre, et il s'érige en faveur de la défense de l'îlot 16. Solidaire de l'esprit de rénovation nationale, qui anime le gouvernement, les signataires dénoncent le français, un conservateur qui détruit, et réservent une place particulière au Marais qu'il faudrait transformer en une sorte de quartier-musée, de centre artisanal et culturel. Le plaidoyer se fait au nom d'une fidélité aux idéaux de Vichy qui s'affiche clairement. Et ils cèdent en contrepartie, les signataires de cette pétition, en contrepartie de la conservation du Marais, la transformation profonde de la périphérie où nul souvenir ne saurait arrêter la pioche du démolisseur. Deuxième initiative, plusieurs architectes défendent la solution du curetage, comme Étienne de Groer, qui affirme que la démolition totale est inutile et très coûteuse. Certains de ses étudiants, regroupés dans l'atelier supérieur d'urbanisme appliqué, publient un plan d'aménagement du quartier du Marais dans le livre de Georges Pignement, Destruction de Paris, en 1942. Robert Ozel, Jean de Maisonseul, Manuel Marchand-Lyon et Henri Delcourt abordent le quartier dans sa totalité, considérant qu'il est en train de pourrir sur place. Ils proposent de démolir, je cite, les chancres, c'est-à-dire les constructions surajoutées au cours du XIXe siècle, de conserver certains groupes de maisons qui, sans avoir un intérêt architectural par elles-mêmes, constituent par leur ensemble un site naturel, et à la place des immeubles démolis, ils proposent l'aménagement d'espaces libres. Ils vont même jusqu'à préconiser l'adoption d'une réglementation particulière adaptée aux nécessités du quartier du Marais, ce qui préfigure le secteur sauvegardé. Ozel réitère la critique avec d'autres architectes l'année suivante dans Destinée de Paris, s'en prenant plus ouvertement encore à Le Corbusier. Il veut démolir Paris, ou tout au moins le centre de Paris. Des gratte-ciels gigantesques sont édifiés dans des parcs. 3 millions d'habitants sont logés dans des tours mastodontes. Ainsi, la vigueur des altercations et des prises de position a contribué à exposer l'îlot 16 sur la place publique, lui décernant une position d'exception pour satisfaire des intérêts très variés. Il cumule des traits qui lui donnent une place unique parmi les 17 îlots insalubres. C'est un ghetto, c'est en tout cas la conviction des autorités publiques. Il est au centre de Paris, il est riche de vestiges qui lui confèrent une forte inscription dans l'histoire de la capitale. Mais l'unanimité se fait autour de la nécessité de transformer la sociologie du quartier. Preuve, s'il en fallait, que les architectes s'intéressent tout autant à la forme urbaine qu'à la population qui est installée. Pour toutes ces raisons, l'îlot 16 a valeur d'exemple dans un combat qui dépasse le simple destin de ce morceau de territoire parisien, puisque se cristallise autour de lui une interrogation centrale dans le débat urbain français : comment concilier modernisation et préservation pour aménager la ville ? Un groupe d'architectes se mobilise à cet égard au travers de la création d'une nouvelle revue qui doit donner de la visibilité aux solutions qu'ils préconisent et qui doit surtout légitimer leur intervention dans la reconstruction à venir, voyez que l'architecture française porte comme sous-titre « Organe de la reconstruction française ». C'est donc une mobilisation intellectuelle à laquelle on assiste, et j'ai d'abord dépouillé la revue comme une source, puisqu'elle, dans de nombreuses livraisons, on trouvait des informations sur l'îlot 16 et sur les différents moments de son aménagement. Puis la critique de la source m'a permis de remarquer que la revue était à la fois une vitrine et un outil pour ce groupe d'architectes. Elle contribue activement à diffuser et nourrir la thématique de l'insalubrité, à grand renfort de cartes, de statistiques et d'allocutions d'experts qui renchérissent sur la définition d'un îlot insalubre en corrélant donc l'état du bâti et la mortalité par tuberculose. La revue accueille dans ses colonnes toutes les annonces concernant les expropriations successives de l'îlot 16 à partir de décembre 1941. Les fonctionnaires de la préfecture de la Seine utilisent la revue comme une vitrine de la politique engagée dans l'îlot 16. C'est donc une expérience grandeur nature et sur le terrain parisien d'un urbanisme qui se revendique de la modernité tout en respectant les vieilles pierres. Ainsi, Maurice Baudot, polytechnicien et fonctionnaire central dans toute l'opération, écrit-il à plusieurs reprises dans la revue pour livrer les projets et décrire la politique menée par la préfecture de la Seine. Ici, dans l'article dont vous avez le titre en bas, sur la question du relogement. Or, cette question est une question centrale dans le lancement de l'opération. Baudot fait montre dans la revue d'en tenir compte et d'examiner les différentes conditions, alors que j'ai montré qu'au contraire, aucune solution n'est proposée aux expulsés et que le contexte de persécution raciale a laissé escompter la vacuité de nombreux logements pour faciliter l'opération. Et c'est dans la livraison de mars 1944 que le secrétaire général de la préfecture de la Seine, Guy Perrier de Ferral, décrit les motifs de l'opération. L'îlot 16 se présentait ces dernières années comme un quartier sordide, habité par une population très pauvre, en majorité israélite, émigrée de l'Europe orientale. De cette misère ressortaient de magnifiques édifices religieux. Les plans des architectes coordonnateurs sont rendus publics dans les pages de la revue. On y trouve des maquettes, des diagnostics qui montrent ici la densité du bâti, et enfin, les propositions des trois architectes coordonnateurs. Enfin, les membres du comité de rédaction sont directement en prise avec le sort de l'îlot 16. Ici, dans la composition du comité de rédaction de 1941, Laprade, Rouspitz et Danis, mais aussi Tournon, qui prendra en charge la construction de la Cité internationale des arts dans l'îlot 16 à partir du milieu des années 50. Léandre Vaillat les rejoint. Il est chargé de mission auprès du préfet de la Seine et un ardent défenseur de la mise en chantier de l'îlot 16. Jean-Charles Moreux, qui publie un gros article dans une livraison de 1942 sur les places de cathédrale et leurs abords, et qui envoie également à l'administration une étude sur la réhabilitation des îlots insalubres, dont on trouve des traces dans les archives préfectorales. Il entre au comité de rédaction en 1943, au moment où Rouspitz devient rédacteur en chef. Ainsi, les principaux animateurs de la revue se retrouvent en charge de l'aménagement de l'îlot 16 à partir de 1943, ce sera mon dernier point. C'est finalement donc la solution du curetage qui a été retenue, et trois architectes coordonnateurs sont nommés en février 1942. Albert Laprade, qui pourtant a souvent accusé ses collègues à la fin des années 30 de forcer le trait sur l'insalubrité des îlots dans l'espoir de décrocher des contrats. En 1937, il s'insurge contre les propositions faites par le conseil municipal au nom de l'insalubrité. C'est la tarte à la crème du moment. Les régions dévastées et les HBM étant terminées, les îlots insalubres voient brusquement venir à eux une cohorte de démolisseurs et de reconstructeurs. Michel Rouspitz est l'interlocuteur principal de l'administration sur le chantier. Il écrit de nombreux mémoires et lettres pour exposer ses vues à propos de l'îlot 16. Enfin, Robert Danis, le plus discret, mais il y a probablement ici un effet de source, il n'a pas déposé ses archives, comme Rouspitz d'ailleurs, et il est moins prolixe avec l'administration. Il deviendra, comme on l'a déjà dit, directeur général de l'architecture, exposant ses vues dans le numéro de mai 1945 de l'architecture française. L'îlot 16 est divisé en trois, Laprade prend la partie ouest, Michel Rouspitz le secteur central et Robert Danis se voit attribuer le secteur est. Leur mission consiste à établir des plans d'ensemble, une étude détaillée pour chacun des immeubles et des projets de coordination de toutes les façades. Léandre Vaillat, qui a beaucoup milité pour leur nomination, rappelle le cap des trois architectes. Ils sont confrères donc à l'architecture française. Je cite, « le nettoyer et lui injecter une nouvelle vie ». L'art du compromis qu'exhale leur projet s'inscrit par certains égards dans l'idéologie vichysoise. Esprit français, respect du passé, conception naturalisante de la ville, hygiénisme social. Ici, Rouspitz assume l'idée que la refonte de l'îlot 16 repose également sur sa redéfinition sociale, expliquant qu'ils cherchèrent la méthode sage, la méthode française, et il conclut « Enfin, il ne pouvait être question de maintenir en ce centre de la ville ce foyer de décomposition sociale ». L'îlot 16 est donc destiné à accueillir des savants et des artistes, et l'ordre des architectes, d'ailleurs, prévoit de s'installer dans l'hôtel de Beauvais. À leur côté, une armée d'architectes est nommée, une quarantaine, des architectes d'opération en charge des études détaillées de sur chacun des immeubles, la taille de l'équipe semblant une garantie pour obtenir une variété dans les façades tout en respectant le plan masse d'ensemble. Donc là, tous ces architectes sont nommés au cours de l'année 43. Chacun reçoit 2 à 5 immeubles. Louis Aretsch prend en charge les 20 et 22 de la rue Geoffroy-Lanier et l'angle de la rue du Grenier-sur-l'Eau. Toute une génération d'architectes a donc fait ses armes dans l'îlot 16. Les archives montrent que les chantiers sont rares. Ils écrivent en fait à l'administration pour être embauchés. Et l'ampleur du projet attire particulièrement. Les études seront rendues rapidement. On en trouve des traces dans les archives. Mais peu de mise en œuvre sera faite, puisque dès le milieu de l'année 42, des ordonnances allemandes interdisent l'engagement de travaux urbains. Surtout, ces architectes, pour certains d'entre eux, vont tirer de leur présence sur ce chantier de l'îlot 16 une forme de légitimité au-delà de Vichy. Félix Bruneau, par exemple, architecte des bâtiments civils et palais nationaux, sera le promoteur infatigable, avec Paul Tournon, de la construction de la Cité internationale des arts, construisant une stratégie auprès du conseil municipal dirigé par le frère du général de Gaulle. Albert Laprade continue de travailler sur l'îlot 16. Il aménage un duplex pour Eugène Claudius Petit au 15-17 rue des Barres, qui emménage en 1953. Il produit plusieurs notes dans les années 50, rappelant que l'îlot 16 abritait, je cite, « une population en majorité israélite et très pauvre, qu'il est devenu un quartier enviable et envié, et qu'il faut envisager une évolution certaine du peuplement et la préparer par des implantations en d'autres secteurs de Paris. » Enfin, Laprade élabore les premiers plans pour le Marais. Il est l'architecte officiel de la préfecture de la Seine, et en cela, il est dans la continuité, et il ne va pas tarder à se heurter à ceux qui sont chargés d'élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du Marais au ministère des Affaires culturelles, c'est-à-dire Bernard Vitry, Michel Marot, Maurice Minost et Louis Aretsch. Louis Aretsch travaille donc à l'élaboration du secteur sauvegardé. Mais dans les années 1950, il brandit son rôle d'architecte opérationnel sous Vichy, en charge des immeubles de la rue Geoffroy-Lanier, à la place desquels le tombeau du martyr juif inconnu, aujourd'hui mémorial de la Shoah, doit être construit. Louis Aretsch écrit à Georges Huysmans, membre du comité exécutif du comité mondial, pour l'érection du martyr. Et il lui signifie son intérêt et l'informe que Michel Rouspitz s'est fait un devoir de me désigner pour cette affaire, car je suis architecte d'opération dans l'îlot 16 et en particulier pour le terrain mis à votre disposition. Fort de cette légitimité fondée sur son expérience dans l'îlot 16 et de sa notoriété grandissante, Aretsch refuse de participer au concours international que le comité souhaite organiser pour désigner l'architecte. Et il voit mal comment il pourrait collaborer avec le lauréat du concours sans que des compromissions ne nuisent au projet final. J'ai trouvé tous ces éléments dans les archives d'Aretsch qui sont déposées à l'IFA. Il est donc désigné architecte conseil du bâtiment dont la réalisation est confiée à Georges Goldberg et Alexandre Persitz. Je conclurai en rappelant que les architectes donc, ont occupé le terrain d'îlot 16 de diverses manières pour s'imposer dans le paysage de l'aménagement de la capitale, tirant parti de cet îlot insalubre comme laboratoire d'expérience. Alors, j'ai dit les architectes, mais bien évidemment, il s'agit d'un groupe circonscrit dont il faut détailler les propriétés. C'est ce que j'ai fait, mais je n'avais pas le temps de le faire dans cette communication. Mon enquête décrit la diversité de leurs pratiques intellectuelles, sociales, opérationnelles, politiques, afin d'inscrire la pensée urbaine de ces hommes dans leur réseau et diversifier les enjeux de leur investissement. À l'échelle de l'enquête que j'ai menée sur l'îlot 16, les architectes sont de véritables moteurs du changement urbain, pas seulement parce qu'ils produisent des projets, mais aussi parce qu'ils anticipent la mise en œuvre des opérations. C'est vrai dans les années 30, quand ils proposent de constituer des sociétés pour attaquer les îlots insalubres. C'est aussi vrai dans les années 60, une fois que l'îlot 16 est entré dans le secteur sauvegardé. De nombreux architectes réclament de pouvoir réhabiliter tel ou tel immeuble face à l'impécuniosité à la fois de la préfecture et du ministère, si bien que l'administration se voit obligée de constater qu'il faut mettre un terme à ces attributions. Je cite, « Une nouvelle attribution au profit d'un architecte dans ce secteur risque de soulever des critiques. » Enfin, parce qu'ils poursuivent, au-delà de la chute du régime, des collaborations avec l'administration plus qu'avec le pouvoir politique. Et il y a donc bien là une nécessité d'une histoire sociale de l'administration, notamment préfectorale, et de la place que les architectes ont pu y occuper. Merci.